Et bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur Fréquence Mistral 96.6 FM. Aujourd'hui, on a Jean Saramet dans notre studio. Bonjour Jean.
Bonjour à toutes et à tous.
Comment allez-vous?
Oh, très bien, très bien. Encore quelques jours avant de redescendre.
Dans le sud.
À Saint-Raphaël, où m'attendent des concerts, des conférences, beaucoup de choses.
Non-stop.
Et une radio.
Mosaïque FM. Mosaïque FM, ouais.
Oui, où j'interviens toutes les semaines.
Dans le sud et dans le nord, vous êtes partout, dans notre voilà. Département. Et aujourd'hui, on va continuer avec les hymnes nationaux.
Oui.
Et on va aller plus nord.
Voilà.
On va faire Danemark, Suède et Norvège.
Oui.
Donc, on commence avec le Danemark.
Danemark, oui. Alors, sur nos cartes, sur nos atlas, ça apparaît comme un pays minuscule. En réalité, ce fut une grande puissance et son hymne officiel en témoigne. Et il y a une double originalité au niveau des hymnes. D'une part, l'espace danois a trois ensembles. Le Danemark proprement dit, capitale Copenhague. Le Groenland, qui appartient toujours au Danemark et qui a un statut d'autonomie avec son drapeau et son hymne et ses timbres. Et même chose pour un archipel dont on ne parle presque jamais, les îles Féroé, qui sont au nord de l'Écosse, tout simplement. Ouais. Ça signifie l'île aux moutons et qui est également autonome avec ses timbres, son drapeau et son hymne, même si Copenhague, comme pour le Groenland, garde la monnaie, les relations internationales et les décisions importantes. Donc il y a trois espaces danois. Et puis il y a deux hymnes. Alors c'est assez rare pour un pays. Il y a l'hymne populaire, chanté par la population lors des fêtes, appris dans les écoles, etc. Et puis l'hymne royal, puisque les trois pays dont on va parler sont des monarchies constitutionnelles. Et l'hymne royal, qui est plus solennel, plus historique, la reine du Danemark, qui avait épousé, mais il est mort il y a quelques mois, qui avait épousé Henri de Danemark, Henri de Montpezat, qui était d'une grande famille du sud-ouest de la France, du département du Lot.
D'accord.
Voilà. Alors, quelques mots sur ces hymnes. L'hymne populaire, en français, s'appelle « C'est un pays merveilleux ». Il date de 1819. Il fut chanté par 12 000 étudiants en 1844, au moment où toute l'Europe du Nord et les îles britanniques connaissaient cette terrible crise sociale et alimentaire de la maladie de la pomme de terre, qui a été effroyable. Les paroles sont d'un auteur romantique, Oehlenschläger, qui est mort en 1850, et qui fait tout au long du poème un parallèle entre la vie de Jésus et les saisons. C'est très original. Le printemps, la naissance, la beauté, l'espoir. L'été, la révélation. L'automne, la communion par le pain et le vin. Et l'hiver, les arbres nus et la mort. La musique est de Hans Kreuer, qui est mort en 1879. Et c'est un hymne en majeur, une sorte de chorale, avec comme pays, comme image, je connais un pays merveilleux dont les bois charmants de hêtre croissent près du rivage de la Baltique. Il ondule de la vallée jusqu'aux collines, son nom est l'antique Danemark, où demeure tranquillement la déesse Freya. Voilà, c'est très connu, très chanté. L'hymne officiel, c'est le roi Christian. Alors, c'est Christian IV qui, au XVIIe siècle, avait fait du Danemark une grande puissance, qui avait vaincu les Suédois en 1644, et l'hymne y fait référence, et qui est, disons, à l'origine des grands monuments actuels du pays, notamment les châteaux, et les monuments de Copenhague. Donc, Pour les Danois, c'est le souvenir d'un roi brillant. On ne peut pas faire le parallèle avec Louis XIV, mais c'est le même siècle pour la France. Et les paroles sont d'un grand poète qui est mort en 1781 à l'âge de 38 ans, qui, disons, veut donner une fierté nationale au pays. La musique, c'est plus incertain. Ce serait peut-être d'un certain Hartmann, mort en 1793, qui fut un grand compositeur danois. Bon, c'est une marche à quatre temps, rapide, en majeur, assez difficile à chanter parce que c'est sur une octave et demie, mais c'est, disons, l'hymne des cérémonies. Le roi Christian se tenait tout en haut du grand mât, dans la fumée et la vapeur, son épée martelait sans répit de son poids le casque et la tête des Goths. Alors, les Goths sont les Suédois, là, dans cet hymne. Alors s'effondra le fier mât des ennemis dans la fumée et la vapeur. Ils crièrent, sauf qui peut, quel est celui qui reste debout devant au combat, Christian de Danemark. C'est un hymne plus à la fois historique et militaire. Donc, il y a les deux versions de l'âme danoise. On va peut-être écouter.
On va essayer. Le titre en danois, c'est quoi?
Ah, alors là, je n'ai pas appris le danois.
C'est De Ert i Jutland.
Alors ça, ça doit être, c'est l'hymne populaire, celui-là.
On va écouter cela?
Oui.
Ok, parce que c'est
le plus poétique.
D'accord, ok, on y va. Voilà, c'est un petit extrait de l'hymne national danois. Et on va continuer juste à côté.
On franchit les détroits.
Exactement.
Avec le Sund et le Belt, qui sont entre la Baltique et la mer du Nord.
D'accord.
Et on débarque. Maintenant, il y a des ponts. dans ce grand pays au niveau spatial et géopolitique qu'est la Suède. Alors rappelons que comme pour le Danemark, la Suède fait bien partie de l'Union européenne. Le Danemark était entré en même temps que le Royaume-Uni et l'Irlande en 1973.
Il ne veut pas partir avec nous ?
Je ne crois pas. Non, je n'en ai pas entendu parler. Par contre, ils ne font pas partie de l'Euroland. Ils ont gardé leur couronne.
D'accord.
Qui n'est pas tout à fait la même monnaie. Couronne norvégienne, couronne suédoise, couronne danoise. Krone. Alors, la Suède, au XIXe siècle, avait tout simplement le « God save the king » en suédois.
D'accord.
L'hymne actuel, qui est « Du gamla du fria », qui est le chant pour le nord, mais en même temps le chant pour la liberté, parce qu'il y a une sorte de jeu de mots entre « friska », le nord, et « fria », la liberté. C'est une mélodie populaire à l'origine qui prend naissance en 1844 et qui devient très vite populaire, qui a pris dans les écoles. C'est poétique, cela fait allusion au paysage, au pluriel, de la Suède. Même si c'est à l'origine une province du sud-ouest de la Chine, de la Suède, pardon, c'est-à-dire très cultivée et moins forestière, mais ça fait référence aux montagnes, au silence de la campagne, au soleil, aux champs, et c'est très joyeux, avec en sous-jacent le principe d'une union des peuples du Nord qui ont leur culture, qui ont leur histoire, en se différenciant fortement de tout ce qui est à l'est, c'est-à-dire le monde russe, et même de ce qui est au sud, c'est-à-dire l'espace allemand. Alors le poète, c'est Richard Diebeck, qui est né en 1844, c'est un grand spécialiste des runes, c'est-à-dire de cette écriture ancienne. Et le musicien, c'est Carl Stenius, qui est mort en 1967. Donc il y a 10 mesures, c'est majestueux, c'est en majeur, ça ne doit pas être joué trop fort. C'est empreint de paix et de liberté. N'oublions pas que la Suède a un statut de pays neutre, elle n'a pas participé aux deux guerres mondiales. Elle a réussi à préserver son indépendance lors de la Deuxième Guerre mondiale, ce qui ne fut pas le cas des trois autres pays voisins. Et donc, c'est très symbolique d'un pays tranquille, rayonnant et fier, certes, d'être suédois. Alors, quelques paroles. Toi, montagne du Nord, toi libre, toi ancienne, de paix et de beauté, nos poitrines sont pleines. Je te salue, toi qui es de la terre la contrée la plus charmante, avec ton soleil, ton ciel, tes prairies verdoyantes et souriantes. Ton trône repose sur les souvenirs des grands jours du temps jadis, quand ta valeur était de renommée mondiale. Je sais qu'en ton nom, la beauté artistique est toujours vraie. Oh, je voudrais vivre et mourir en Suède. Voilà le message en français. Donc, on va peut-être écouter le « Du gamla du fria ».
Ok, on y va. voilà un extrait de l'hymne national suédois avec l'orchestre de la Suède. Voilà.
Bon, c'était très solennel.
Oui.
Avec un très bon chanteur.
Exactement.
Alors nous allons franchir une frontière qui en est une sans en être une totalement, la frontière avec la Norvège. Alors sur le plan géopolitique, la Norvège a sa monnaie, elle ne fait pas partie de l'euro et elle ne fait pas partie officiellement de l'Union européenne.
C'est ça. Ouais.
Les négociations d'adhésion avaient eu lieu au début des années 70 et c'était très bien déroulé, mais le référendum a été non. Donc, il y a des accords d'association, mais la Norvège ne fait pas partie de l'Union européenne. L'explication, c'est que les Norvégiens ne sont pas très nombreux. Ils ont une protection sociale exceptionnelle. Et ils vivaient à l'époque surtout de la pêche. Et puis après, il y a eu le pétrole. L'hydroélectricité permet aussi des industries métallurgiques extrêmement dynamiques. Et disons que les Norvégiens avaient eu peur de s'intégrer dans cet immense espace européen. Mais si un futur référendum disait oui, les accords d'association et même d'adhésion sont prêts. Donc ça dépend des électeurs norvégiens. Alors, l'hymne, c'est « Oui, nous aimons ce pays ». « Ja, vi elsker dette landet ». Il date de 1864 et il a été composé ou joué pour le 50e anniversaire de la Constitution norvégienne. Alors, juste un petit rappel historique. En 1814, à la fin des guerres napoléoniennes, pour remercier le maréchal Bernadotte, qui était un maréchal napoléonien, qui ensuite s'était mis dans l'alliance contre Napoléon avec les pays du Nord, pour remercier le maréchal Bernadotte, la Norvège est donnée à la Suède. Elle faisait partie du Danemark avant. Et il va y avoir des liens assez ténus, ça ne se passe pas trop mal, jusqu'à la séparation officielle et l'indépendance totale de la Suède et de la Norvège, mais surtout de la Norvège, en 1905. Voilà. Donc, la Norvège avait déjà l'habitude d'une large autonomie au XIXe siècle, d'où une constitution, d'où une monarchie constitutionnelle et cet hymne de 1864. Alors, il y a 8 strophes, c'est un poème très long, écrit par Björnson, qui est mort en 1910. C'était un poète patriote et ce sont des vers très poétiques. Le musicien, c'est Richard Nordraak, qui est mort en 1866 à 24 ans et qui était le cousin du poète.
Ouais, c'était ça que j'étais
Le grand compositeur Grieg fit jouer cet hymne en 1872. Voilà. Il est particulièrement entonné lors de la fête nationale tous les 17 mai. C'est une marche à quatre temps, en majeur, donc très dynamique. Au niveau des paroles, juste le premier couplet. « Oui, nous l'aimons avec une tendre dévotion, ce pays qui émerge de l'océan, surgit de la tempête avec ses milliers de foyers. Souvenons-nous avec amour de ceux qui nous ont donné naissance, de la nuit des légendes, engendrant les rêves qui descendent sur notre terre. » Voilà le premier couplet. Je voudrais, juste pendant deux minutes, donner une expérience, entre guillemets, qui a eu lieu il y a quelques jours. Mm-hmm. Comme chaque année, je prends une matinée pour monter au sommet du Prorel, juste au-dessus de Briançon. Et là, sur le sentier, juste avant le sommet, j'entends des pas qui se rapprochent, je me retourne, c'était un ado blond de 14 ans maximum. Donc je le salue, il me parle en anglais, un anglais, pas l'anglais de Londres. Donc nous causons et j'ai été absolument éberlué. La première chose qu'il me dit, je suis très fier d'être arrivé plus haut que le plus haut sommet de mon pays. Je me dis, oh, de la géographie à cette altitude. Alors, je lui demande d'où il vient. Il me dit, je viens d'Oslo, je suis norvégien. Alors, nous avons continué en anglais. J'essayais de comprendre et j'essayais de lui faire quelques phrases simples. Là, j'y arrive. Mais alors, vraiment éberlué, parce que ça a duré au moins 20 minutes. Donc, c'est un ado, 14 ans maximum. Je lui ai posé pas mal de questions sur la monnaie, sur les rapports avec l'Union européenne, sur la Norvège et l'OTAN, sur la géopolitique du Grand Nord, sur la frontière avec la Suède. J'avais à peine fini mes questions que j'avais un cours, sans forfanterie, un cours argumenté. Mais je me disais, mais je n'ai jamais eu ça quand je faisais passer l'oral du bac avec des élèves de 17, 18, 19 ans. Mais un cours argumenté très sérieux. À la fin, c'est moi qui ai arrêté parce que je voulais redescendre. Mais c'était fantastique.
Très intéressant.
Ouais. Voilà, si je voulais faire un jeu de mots, c'était une conférence au sommet.
Oui, ça sera pas mal.
Voilà, mais vraiment, ça me laisse un souvenir. Alors, exactement. Je me dis, est-ce que c'était une exception? Si ça avait été un seul sujet, on pourrait imaginer qu'il avait fait un exposé 2 mois avant dans son collège. Mais non, c'était sur tous les sujets. Je me suis dit, mais c'est pas possible, il a une puce avec Wikipédia greffée quelque part.
Oh, ils ont des bons professeurs.
Ou alors, c'était dans une école de haut niveau à Oslo, la capitale. Fantastique, vraiment fantastique. Alors, on va écouter « Oui, nous aimons ce beau pays
». Il y a des paroles avec cela.
Bon.
Donc, on y va avec... Voilà, c'est les hymnes nationaux de Norvège.
Peut-être aura-t-on le plaisir de continuer lorsque je reviens voir les mélèzes et les couleurs d'automne à la fin du mois d'octobre. On n'a pas parlé de la Finlande. La Finlande, c'est un autre peuple, une autre langue, et elle est dans l'Euroland. Donc géopolitiquement, c'est vraiment différent. Et puis peut-être l'Islande.
Islande, oui. On ne va pas oublier l'Islande. Un grand, grand merci, Jean. Pour tout votre temps, vous êtes bénévole chez nous depuis quoi, 2 ou 3 ans maintenant.
Oh oui, au moins 3 ans.
Oui, 3 ans. Oh, oui. Et pas que ici, parce que vous faites aussi à Mosaïque FM.
Oui, Mosaïque FM, qui est le sud-est, qui couvre le sud-est varois, disons. Donc on parle surtout histoire, géographie, un petit peu poésie pour tout le sud-est varois. Toutes les semaines, ça va reprendre dans une quinzaine de jours.
Oui. Et pour terminer, on va aussi parler le 6 septembre, c'est le 75e anniversaire de la libération de Briançon.
Tout à fait. Date importante avec une très importante cérémonie le soir du 6 septembre au Monument aux Morts. Tout près de la porte d'Embrun, donc juste en haut de la chaussée, avec vraiment les autorités et une très bonne organisation par le Souvenir français, présidé par M. Jalade. Et quelque chose qui me touche beaucoup, parce qu'il n'y a pas l'équivalent à Saint-Raphaël, c'est le fait que pendant une heure auparavant, une délégation de souvenirs français, très souvent avec des élèves du primaire ou de collège, sillonne les rues de la ville pour mettre un petit drapeau et un petit bouquet de fleurs à côté des plaques dans les rues, commémorant les personnes qui sont mortes lors des combats de la libération ou qui ont été fusillées quelques jours avant. C'est une excellente idée, c'est typiquement dans la mission du souvenir français, puisqu'il y a à la fois le souvenir et la transmission de la mémoire. C'est vraiment très très bien.
Et le 7 septembre, vous proposez une conférence en fait.
Oui, le souvenir français, la mairie me charge pour le 75e anniversaire de faire une conférence, je crois que c'est à 17h.
Exactement.
Près du départ du téléphérique. Ce sera entre 1h et 1h30 avec des documents projetés sur le débarquement de Provence du 15 août, qui est à l'origine et qui a rendu possible la libération de Briançon, qui s'est effectuée à la fois par les FFI locaux et du maquis de Loisan et les troupes françaises, américaines le 23, mais françaises le 6, pour l'essentiel originaires d'Afrique du Nord, Maroc, Algérie, les tabors marocains, entre autres, général Dodi, général Guillaume, qui était allé embrasser sa mère à Guillestre avant de venir libérer Briançon, sa mère qu'il n'avait pas vue depuis des années. Et une plaque commémorative, d'ailleurs, à l'entrée sud de Briançon-Vauban, rappelle ces troupes venues d'outre-mer qui ont militairement donc organisé cette deuxième libération de Briançon. Alors, ce débarquement de Provence du 15, à partir du 15 août est beaucoup moins connu que celui de Normandie, j'allais dire à juste titre. Celui de Normandie était vraiment l'opération majeure, très risquée, avec cette bataille de Normandie qui dure 2 mois et la victoire de Normandie par les troupes anglo-saxonnes et polonaises. Ce n'est que 2 mois après le 6 juin, c'est donc l'opération majeure. Mais ce débarquement de Provence, d'abord, n'est pas anodin. Plus de 2000 avions, plus de 2000 bateaux et engins flottants, 400 000 hommes sur 2 semaines. 100 000 le premier jour, américains, et ensuite français. C'est la renaissance sur le sol national de l'armée française, puisque c'est 280 000 hommes qui vont débarquer en 2 semaines dans le fond du golfe de Saint-Tropez, à Cavalaire et Croix-Valmer pour l'essentiel, et qui vont avoir le redoutable honneur de prendre Toulon et de prendre Marseille. Et c'est ça l'enjeu fondamental. Les historiens américains et britanniques insistent beaucoup plus que les historiens français sur l'importance de cette opération au niveau militaire et stratégique, parce que le débarquement de Normandie n'avait pas permis de prendre des ports. Les ports étaient soit détruits, soit vont rester occupés par les Allemands. Et il faut absolument débarquer plus d'un million d'hommes, débarquer des millions de tonnes de matériel et surtout d'essence, d'énergie. Un petit char Sherman américain, c'est 400 litres au 100 km et en pleine. Et il n'est pas question de remonter jusqu'en Allemagne sans char. L'aviation ne peut pas tout faire. Donc, le port, le seul port capable en étant réparé après les destructions, c'était Marseille. Et Marseille n'a été réparé de façon partielle, mais quand même suffisante, qu'à partir du 15 septembre. Donc, la libération du Var, mais surtout de Toulon et de Marseille, réservée à l'armée française, pendant que l'armée américaine remontait la Durance et la vallée du Rhône, ça a été une opération majeure, une tenaille sur le sol français, et la jonction des armées débarquées en Normandie et des armées débarquées en Provence s'est faite le 13 septembre près de Dijon. Bon, la libération des Alpes et de Briançon, c'était stratégiquement important.
D'accord. Et on peut savoir un peu plus à votre conférence le 7 septembre dans la salle des associations à Briançon. On va terminer ce matinal. On va aussi faire un petit reportage avec Jean Saramé sur ce sujet que vous pouvez écouter sur nos ondes la semaine prochaine. Un grand merci pour tout, Jean. Mais je sais que vous allez revenir en octobre.
Oui, et puis début avril, je l'espère bien.
Exactement.
Comme chaque année.
Et on va souhaiter une très très bonne journée à tous nos auditeurs et on se retrouve demain à partir de 8h30 et on va partir avec Henri Salvador.
Les dernières hirondelles vers d'autres cieux plus cléments s'éloignait à tire-d'aile.